Bonjour à tous, merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
2 heures ensemble pour faire le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux. À la une, ce mercredi 5 février, un mélange de sidération et de critique après les déclarations de Donald Trump hier aux côtés du Premier ministre israélien qu'il recevait à la Maison Blanche.
Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous y ferons du bon travail. Le potentiel de la bande de Gaza est incroyable. On a l'opportunité de faire quelque chose de phénoménal, une Riviera du Proche-Orient.
Depuis, les réactions négatives sont nombreuses du côté des autorités palestiniennes, bien sûr, mais aussi en Chine, au Royaume-Uni, à Berlin ou en Égypte. Nous verrons avec notre invité dans 3 quarts d'heure que cette idée n'est pas nouvelle chez Donald Trump, celle de faire de Gaza une station balnéaire pour riches touristes. Mais c'est la première fois que le président américain l'envisage sans les Palestiniens. Nous irons aussi à Gaza dans le prochain journal dans une demi-heure. On parlera également dans RFI Midi des conséquences pour Haïti de la nouvelle politique américaine, du désengagement du financement de la mission multinationale censée lutter contre les gangs, mission menée par le Kenya pour l'instant. Les hommes kényans déployés à Port-au-Prince sont toujours sur place. Donald Trump, qui a dit aussi à plusieurs reprises son souhait de mettre un terme à la guerre en Ukraine, et pour la première fois depuis le début du conflit il y a 3 ans, Volodymyr Zelensky se dit prêt à discuter avec Vladimir Poutine. Nous appellerons notre correspondante à Kiev dans un instant. À suivre aussi dans quelques minutes un reportage auprès de femmes inuites au Groenland, victimes de contraception voire de stérilisation forcée dans les années 60 et 70.
Le stérilet a complètement détruit ma féminité. J'aurais pu avoir des enfants et j'ai un âge où je pourrais même être grand-mère. J'aimerais qu'on me dise, on est vraiment désolé de vous avoir fait ça, c'était illégal. Je n'avais que 13 ans, je n'étais qu'une enfant.
Pour l'instant, les excuses ne viennent pas. Les femmes victimes de la persécution des autorités danoises au Groenland attendent toujours justice, vous les entendrez. Voilà pour le programme. Bienvenue.
RFI, l'Europe à midi.
C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a près de 3 ans. Volodymyr Zelensky se dit prêt à s'asseoir à la table des négociations avec le président russe. Si, dit Volodymyr Zelensky, cela permet d'apporter la paix en Ukraine. Il l'a dit en répondant aux questions d'un journaliste britannique. Ses propos ont beaucoup surpris en Ukraine, où l'on retrouve tout de suite notre correspondante. Bonjour Emmanuel Chaz.
Bonjour Anne.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce que seraient les conditions d'une rencontre entre les deux présidents ?
Alors déjà, j'aimerais revenir sur ces réactions qui ont été assez partagées ici. Je parlais ce matin avec des habitants de Kiev. Beaucoup me faisaient part de leur surprise suite aux déclarations de Volodymyr Zelensky. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie fatigue par rapport à la guerre. Il y a des pertes humaines, des pertes de territoire. Elles ont vraiment épuisé la population ukrainienne. Et c'est vrai qu'on voit plus de gens qu'avant prêts à entendre parler de négociations, même si ce n'est toujours pas la majeure partie de la population. Pour autant, les Ukrainiens ne sont pas forcément prêt à entendre parler de rencontres avec Vladimir Poutine. Alors, Volodymyr Zelensky a concédé que toute conversation avec le président russe serait en soi déjà un compromis pour l'Ukraine, puisqu'il s'y était refusé jusqu'à présent. Et il a précisé toujours le considérer comme un ennemi, mais aussi que si c'était la seule solution pour apporter la paix à l'Ukraine, eh bien, il mettrait ses sentiments personnels de côté sans pour autant changer d'avis au sujet du président russe. Il a également ajouté que toute rencontre devrait impliquer l'Union européenne, les États-Unis, et que la position de Kiev sur les territoires illégalement occupés par la Russie ne changerait pas et qu'il n'y aurait pas de reconnaissance de cette occupation par l'Ukraine.
Emmanuel Chaz en direct de Kiev. Réaction aujourd'hui à Moscou. Le Kremlin juge vide de sens les déclarations de Volodymyr Zelensky. C'est le porte-parole de la présidence qui l'a dit tout à l'heure. Malgré tout, nous restons ouverts aux négociations, a dit Dmitri Peskov, estimant que la réalité sur le terrain devrait convaincre Kiev de faire preuve, dit-il, d'ouverture et d'intérêt pour de telles négociations. La Russie revendique par ailleurs la prise de 2 nouveaux villages dans l'est et dans le nord-est de l'Ukraine.
RFI Midi.
Notre dossier du jour, à présent en Turquie, où les enquêtes pour accusations de terrorisme se multiplient dans le cadre d'une vague de répression de grande ampleur. Cette vague de répression, elle touche aussi bien les milieux politiques qu'intellectuels et culturels. Bonjour Oriane Verdier.
Bonjour.
Le dernier événement, c'est l'interpellation de l'actrice Melisa Sosen.
Oui, nous en parlions à l'antenne hier en question, le rôle qu'incarne l'actrice turque dans la série française Le Bureau des Légendes. Elle remet le costume d'une combattante kurde dans la branche syrienne du PKK, le parti kurde considéré comme organisation terroriste et interdit en Turquie. Cette série a été diffusée il y a 7 ans, mais c'est maintenant que le procureur d'Istanbul a décidé d'ouvrir une enquête pour propagande d'organisation terroriste qui a été donc ouverte à son encontre.
C'est justement pour avoir critiqué le procureur d'Istanbul que le maire de la ville a été entendu, lui, devant la justice.
Oui, autre exemple qui touche donc maintenant le milieu politique. Vendredi dernier, le maire d'Istanbul du parti d'opposition CHP dénonce, lui, le harcèlement de la justice à son encontre, tout comme d'autres élus du même parti. Il fait l'objet de plusieurs enquêtes. Ekrem İmamoğlu, considéré comme un dangereux rival pour le président Recep Tayyip Erdogan. Des journalistes ont également été arrêtés. Depuis plusieurs semaines, Amnesty International alerte sur cette montée en puissance de la répression. Écoutez Milena Bouyoum.
On commence le jour sans savoir qui va être peut-être arrêté ou censuré. Donc il y a vraiment un vrai problème très fondamental de manque d'indépendance du système juridique qui, à son tour, implique bien sûr cet usage arbitraire des lois très vagues contre le terrorisme. Et la définition même d'acte terroriste est très problématique dans la loi turque.
En effet, l'accusation est fréquemment celle de propagande terroriste liée donc au PKK. C'est le cas également de membres du barreau d'Istanbul, cette fois, dans le collimateur de la justice également. Ils ont notamment demandé l'ouverture d'une enquête sur deux journalistes turcs d'origine kurde, tués en Syrie le 20 décembre 2024 lors d'une frappe d'un drone turc contre leur véhicule.
Et pourtant, on parle aussi depuis plusieurs mois d'un processus de négociation entre Ankara et le PKK.
Et oui, ça peut paraître paradoxal, mais pas impossible pour le chercheur Yohanan Benaïm de l'Institut français de recherche anatolienne.
Aujourd'hui, ce processus de discussion intervient dans un contexte où il n'est pas du tout question de démocratisation. On a des négociations sans qu'il y ait d'apaisement sur cette question-là, on a des négociations sans qu'il y ait une véritable transparence. Cependant, on a l'impression qu'il y a une véritable volonté de l'État de trouver une solution à mettre un terme au conflit qui oppose l'État turc et la guérilla du PKK. En fait, le simple fait que cette fois-ci, il n'y ait pas eu de manière massive dans les régions où des maires du parti procureur du parti DEM ont été élus, ces nouveaux maires élus n'aient pas été remplacés massivement par des administrateurs. Si cette tendance continue, ça permet aussi aux particuliers de retrouver l'accès aux municipalités, de pouvoir développer des politiques au niveau local. Et ce simple retour à la normale démocratique serait une victoire pour le mouvement kurde.
Depuis les élections municipales de mars 2024 de l'année dernière, donc 11 maires ont tout de même été destitués pour être remplacés par des administrateurs choisis par le pouvoir. 8 d'entre eux étaient issus du parti procurde, le DEM, 2 du CHP.
On parle aussi, Oriane, ces derniers temps, beaucoup de la Turquie pour le rôle qu'elle joue ou qu'elle pourrait jouer dans des grands dossiers internationaux, comme par exemple la guerre en Ukraine, la situation en Syrie ou même Gaza.
Et justement, Milena Bouyoum d'Amnesty International craint que cela ne donne aux autorités turques un sentiment d'impunité sur la scène internationale.
C'est regrettable qu'il n'y ait pas beaucoup de questions posées sur la situation des droits humains dans le pays. Peut-être que c'est motivé par le rôle que le gouvernement, les dirigeants turcs se sont pris au niveau de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine ou leur importance au niveau régional, au Moyen-Orient, etc. C'est regrettable. On ne peut pas avoir une situation juste au niveau régional si la situation dans le pays même est pas juste.
En interne, en tout cas, cette montée en force de l'influence turque sur la scène internationale ne semble pas suffire à Recep Tayyip Erdogan pour remonter dans les sondages. Yohanan Benaïm de l'Institut français des recherches anatoliennes.
Cette volonté de capitaliser sur une image positive en politique étrangère ne parvient pas forcément à rattraper la perte de popularité liée à la situation très concrète en termes économiques que vivent la population turque. Et ça se ressent aussi dans les sondages d'opinion où le parti d'opposition peut parfois arriver en tête de certains sondages et où Recep Tayyip Erdogan est, si ce n'est au coude à coude, du moins sérieusement concurrencé par les deux principaux candidats de l'opposition, à savoir tous deux issus du parti kémaliste du CHP, à savoir le maire d'Ankara, Mansour Yavaş, et celui d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu.
Les prochaines élections présidentielles sont prévues en 2028. Entre-temps, des discussions sont en cours pour la rédaction d'une nouvelle constitution souhaitée par le président Recep Tayyip Erdogan.
Un dossier d'Oriane Verdier.
RFI Midi, Anne Contner.
Un coup d'œil à la presse européenne où s'affiche en une, comme dans de nombreux pays du monde, les déclarations de Donald Trump sur la bande de Gaza hier, son intention d'en déplacer les Palestiniens, de prendre le contrôle du territoire pour en faire la Riviera du Moyen-Orient. L'une des annonces les plus surprenantes depuis des décennies concernant la région, dit El País. Bienvenue dans le monde de Trump, où le promoteur en chef voit des signes de dollars dans les décombres de Gaza, titre du journal The Guardian qui poursuit. Dans la vénérable salle est de la Maison-Blanche, il est apparu clairement que Trump 2.0 entre dans une phase dangereusement expansionniste. Pour Libération en France, cela pourrait entraîner la région dans une nouvelle spirale de la mort, anéantir tous les plans de paix possibles. Wyborcza en Pologne commente « Donald Trump veut imposer sa volonté aux Palestiniens et à leurs voisins, comme il l'a fait avec les femmes, les entreprises, ses rivaux politiques et plus récemment les procureurs ». Et le journal ajoute « L'Amérique paiera pour ça ». Et puis, autre sujet dans la presse européenne, la campagne électorale en Allemagne. Nous sommes à moins de 3 semaines des législatives anticipées et le système Scholz se dissout lentement, écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Certes, Scholz croit toujours en Scholz, mais qui d'autre au sein de son parti croit en lui ? En témoigne, selon le quotidien, la volonté de son ancien ministre des Finances, homme de l'ombre pendant 20 ans, de s'émanciper et d'être élu dans la lumière au Parlement.
RFI, l'Europe à midi.
Nous vous emmenons maintenant au Groenland pour parler d'événements qui ont traumatisé des milliers de femmes inuites. Dans les années 60 et 70, les autorités danoises qui contrôlent le territoire ont imposé des moyens de contraception à la moitié des femmes autochtones pour faire baisser la natalité dans l'archipel. Les stérilets faisaient partie, en fait, de tout un programme de persécution des femmes qui ont vu aussi souvent leurs enfants leur être retirés pour des motifs mensongers à cause d'un prétendu test de compétences parentales auquel elles devaient se soumettre. Un test qui n'a été suspendu qu'il y a quelques jours par les autorités danoises sous la pression, car ces femmes commencent à raconter publiquement ce qui leur est arrivé. Notre correspondante Ottilia Ferré a pu recueillir leurs témoignages.
L'histoire de ces femmes groenlandaises n'est pas facile à entendre. Elisa n'avait que 13 ans lorsque sa tante l'a emmenée de force chez le docteur pour lui faire poser un stérilet. Un stérilet pour femme adulte, incompatible avec son corps de jeune adolescente.
J'ai demandé pourquoi, elle m'a simplement dit « c'est ce qu'on fait aux femmes groenlandaises ici au Danemark ». Je me souviens encore de l'odeur et de la douleur.
Les douleurs qu'endurait Lisa après la pose sont insupportables et les saignements sont si intenses qu'ils mettent sa vie en danger. Le stérilet a donc dû lui être retiré. Par la suite, elle aura 2 grossesses extra-utérines qui se sont terminées en 2 fausses couches. La faute au stérilet qui a eu des effets irréversibles. Après cette opération infructueuse, les médecins ont dû lui enlever l'utérus.
Le stérilet a complètement détruit ma féminité. J'aurais pu avoir des enfants et j'ai un âge où je pourrais même être grand-mère. J'aimerais qu'on me dise « On est vraiment désolé de vous avoir fait ça, c'était illégal ». Je n'avais que 13 ans, je n'étais qu'une enfant.
Avec 142 autres femmes groenlandaises, Elisa a porté plainte contre l'État danois. Arnaque, elle, a porté un stérilet pendant de longues années sans même le savoir. À 15 ans, elle est violée par le patron du kiosque où elle travaille au Groenland.
Je suis tombée enceinte, mais je ne sais pas de qui. J'ai décidé d'avorter. C'est à ce moment-là que le docteur m'a posé un stérilet, mais je ne le savais pas à l'époque. Mes parents ne savaient rien non plus.
Dans les années qui suivent, Arnaque et son compagnon essayent d'avoir un enfant en vain. Elle retourne chez le docteur pour essayer d'en comprendre la raison.
Surprise, il y avait un stérilet. Je ne le savais pas, on n'en savait rien.
Arnaque aussi portait un stérilet bien trop grand pour son jeune âge.
Je n'ai jamais pu tomber enceinte. J'aurais aimé avoir 10 enfants. j'aimerais des excuses de la part du roi du Danemark.
Quand on parle aux femmes groenlandaises, quasi toutes ont été concernées de près ou de loin par ce scandale des stérilés. De fait, entre 1966 et 1970, 4500 stérilés ont été posés sur des jeunes filles sans leur consentement ou sous pression. Des actes exercés dans le cadre d'une campagne à grande échelle menée par le Danemark. L'affaire ne sera révélée qu'en 2022 grâce au témoignage des victimes. Des victimes que Nyangwak connaît bien.
Certaines ont même eu deux stérilés insérés. Si on regarde la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il s'agit bien d'un génocide.
Nyangwak a cofondé SILA 360, une ONG qui défend les droits des Groenlandais. Elle a été particulièrement active dans la défense des parents inuits à qui les enfants ont été retirés au Danemark à cause des tests de compétences parentales. Des tests jugés inadaptés et souvent discriminatoires à l'égard des familles d'origine inuite.
Ils ont beaucoup de préjugés et de stéréotypes envers les Groenlandais et ça se répercute sur leur façon de vouloir prouver que ces parents ne sont pas capables de prendre soin de leurs enfants. Ils passent des tests de QI effectués en danois et culturellement adaptés à la population danoise. On a recensé des suicides, que ce soit du côté des mères ou des enfants qui ont été placés. Un garçon nous a dit qu'il avait l'impression que ses racines groenlandaises lui avaient été retirées. Il ne pouvait voir sa mère que deux fois par mois, le temps d'une heure, et il a dit qu'aucun enfant dans le monde ne devrait être contraint de voir si peu sa mère.
Le 7 novembre 2024, Kera Kronvold donne naissance à Zami au Danemark. Sa petite fille, elle n'a pu la tenir que deux heures dans les bras avant qu'elle lui soit retirée. Elle n'avait pas réussi le test de compétences parentales.
Quand elle est née, je l'ai allaitée et je l'ai gardée au chaud contre moi. C'était un moment merveilleux, mais aussi horrible, parce que je savais que deux heures plus tard, on allait me la prendre.
L'histoire de Kera est devenue un symbole de la lutte des femmes groenlandaises. Dans un passage de son dossier, on peut lire, entre guillemets, que son origine rendrait difficile pour elle la préparation de l'enfant aux attentes et codes sociaux nécessaires dans la société danoise. Sa petite amie, âgée de 3 mois à peine, Kera ne peut la voir que 2 fois par mois, le temps d'une heure seulement et sous supervision.
Je n'ai pas le droit de montrer mes émotions, je n'ai pas le droit de changer sa couche, de lui donner le biberon, de la bercer. Une fois, sa chaussette est tombée par terre. Je n'ai pas eu le droit de la lui remettre. Je pense à elle tout le temps.
Les deux enfants aînés de Kera lui ont également été retirés du jour au lendemain. À chaque fois, elle a dû passer le test de compétences parentales. Un test qu'elle estime n'avoir aucune chance de réussir.
J'ai demandé pourquoi je devais passer ce test et on m'a répondu que c'était pour voir si j'étais assez civilisée. Ils nous considèrent comme des personnes attardées. Le test conclut que je ne suis pas capable d'être mère. Je n'ai aucune maladie, je ne bois pas, je ne me drogue pas, j'ai toujours fait le maximum pour mes enfants, mais peu importe ce que je faisais, ils ne me lâchaient pas. J'ai l'impression qu'ils avaient décidé de me retirer ma fille, coûte que coûte.
Pour Pilungwak, 38 ans, tout commence lorsqu'elle se sépare de son compagnon. Les services de sa commune danoise proposent de l'aider en gardant les enfants le temps qu'elle trouve un nouvel appartement, car elle est harcelée par son ex-conjoint. Pilungwak accepte. Une fois installée dans son nouveau logement, elle demande naturellement à récupérer ses enfants. Mais on lui fait alors passer le fameux test. Elle raconte son histoire en compagnie de Tina, l'autre cofondatrice de l'ONG SILA 360, qui l'aide dans ses démarches.
Ce qui s'est passé dans le cas de Pilou, c'est que ses parents ont été décrits comme alcooliques, même si ce n'était pas le cas. Elle-même a été catégorisée comme alcoolique et accro au cannabis. Ces informations sont totalement fausses. Ce sont les failles de ce système. Ils n'ont besoin d'aucun document ou certificat pour prouver quoi que ce soit. Il leur suffit de l'écrire dans le dossier. C'est un système très, très, très étrange, sans aucun droit légal.
Pilou s'est vu retirer ses enfants il y a maintenant 4 ans. Depuis, la jeune femme fait tout son possible pour les récupérer.
J'ai mis au monde ces enfants. J'ai pris soin d'eux. Ils avaient une belle vie. La plus jeune n'avait que 1 an quand ils l'ont prise. C'était très dur de lui dire au revoir.
Face au scandale que ces révélations ont provoqué, le Danemark a annoncé le 21 janvier dernier renoncer au test de compétences parentales sur les personnes d'origine inuite. Une manière d'apaiser les tensions avec le Groenland au moment où Trump menace d'acheter l'île arctique.
Reportage d'Olivia Ferret au Groenland, à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10 temps universel.
RFI Midi. Un monde de tech.
pour parler aujourd'hui de jumeaux numériques destinés à prévoir les épisodes météo extrêmes. Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Anne.
Le premier, c'est l'Observatoire mondial sur l'impact environnemental de l'IA, créé par l'École normale supérieure de Paris et Capgemini. Et puis de l'autre côté, la firme Nvidia qui vient de lancer un dispositif équivalent, un jumeau numérique piloté par IA donc, et dénommé Earth-2. L'objectif donc, c'est d'anticiper les catastrophes météo.
Oui, et dans le domaine des hautes technologies sur lesquelles s'appuient tous les programmes d'intelligence artificielle du monde, la renommée des processeurs graphiques de la firme Nvidia n'est plus vraiment à démontrer. La puissance de calcul délivrée par ces composants électroniques est devenue colossale et permet au programme IA de s'entraîner et de fonctionner à la vitesse de l'éclair. Toutefois, les conséquences des épisodes météo extrêmes provoqués par le changement climatique inquiètent aussi les géants de la big tech et les grandes entreprises qui ont subi en 2024 des pertes économiques d'environ 140 milliards de dollars. C'est la raison pour laquelle Nvidia a lancé ce jumeau numérique qui est piloté par IA, dénommé Earth-2 ou Terre 2 si vous voulez. L'objectif de ce métaverse de très haute fidélité, copie conforme du réel, est de simuler et visualiser les événements météo à l'échelle du kilomètre à partir d'images satellitaires en haute résolution par exemple d'une région donnée afin de mieux anticiper les catastrophes météo et prévoir ces épisodes est essentiel à la fois pour les populations locales et les entreprises, les industriels, nous précise Serge Palaric, responsable Europe des alliances stratégiques chez Nvidia.
Et s'il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que ça permet de le faire en temps réel. Parce que faire des simulations et puis on a les résultats dans une semaine, c'est une chose. Grâce à la puissance de calcul et du calcul accéléré, on va pouvoir changer les paramètres du jumeau numérique pour avoir cette simulation en temps réel et voir l'implication d'un ouragan, par exemple, sur la population et, comme vous l'avez dit, sur les industries afin de prendre les mesures nécessaires pour réagir et être plutôt proactif à ce genre de phénomène.
Mais la transformation numérique accélérée par l'intelligence artificielle soulève beaucoup d'autres questions sur son impact écologique.
Effectivement, les dernières recherches de l'entreprise de services du numérique française Capgemini ont révélé une réalité plutôt préoccupante sur le déploiement de l'IA. La consommation énergétique des grands modèles de langage et la multiplication des serveurs informatiques utilisés par ces programmes explosent. Toutes les études sur le sujet convergent. Certaines études prévoient même, selon les scénarios les plus pessimistes, une augmentation de la production d'électricité pouvant atteindre 2400% d'ici à 2030. Un courant électrique qui sera principalement généré, faute de solutions alternatives, à partir des énergies fossiles. L'empreinte environnementale de l'IA deviendrait ainsi en conséquence tout bonnement insoutenable, a estimé l'École normale supérieure de Paris, qui a décidé de s'associer à Capgemini pour lancer un observatoire mondial dédié à la menace climatique que représente l'intelligence artificielle. L'initiative rassemblera des experts internationaux issus du monde académique, de l'industrie et de la société civile. L'objectif de l'Observatoire est d'inciter les géants américains et asiatiques de la Big Tech, si du moins elles désirent préserver le business florissant de l'IA, à adopter des pratiques plus responsables dans le développement et l'utilisation de leurs programmes.
Dominique Dezonnet pour notre monde de tech. Rencontre à présent, comme chaque jour, avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, la comédienne Christaine Reboul. Elle interprète en ce moment Jeanne Durand-Ruel, épouse d'un grand marchand de tableaux, admirateur de Claude Monet. Et elle parle de son rôle, de la pièce « Les collectionnistes » au micro d'Elisabeth Le Quéré.
Christelle Reboul, bonjour.
Bonjour.
Dans Les collectionnistes, vous êtes la femme de Paul Durand-Ruel, donc Durand-Ruel, grand marchand d'art du 19e siècle, le premier à avoir su voir le génie des impressionnistes. Comment l'avez-vous créée, Jeanne Durand-Ruel ?
Jeanne, c'est une femme qui ne comprend pas cette peinture, qui ne comprend pas l'engouement de son mari, sa passion pour cette nouveauté. Je sais pas si, au final, je sais pas si elle le comprend pas ou si simplement elle est jalouse. En fait, c'est une histoire d'amour surtout. C'est une grande amoureuse, Jeanne. C'est ça qui m'a plu, en fait, dans cette pièce quand je l'ai lue. Et au fur et à mesure, elle va ouvrir son regard parce qu'elle est amoureuse, mais elle ouvre son regard sur cet autre monde qui est celui des impressionnistes.
Jeanne et Paul Durand-Ruel, c'est un couple particulier.
un couple très particulier puisque ils sont au final tous les deux animés par cette passion de l'art. Ils ont en fait au fond d'eux un immense sens à leur vie, quoi. Et on aimerait tous l'avoir aussi fort, savoir où on va et pourquoi on a envie de se lever le matin.
Alors justement, Christelle Reboul, on le disait, Jeanne, elle ne comprend pas les impressionnistes. Renoir Pissarro, elle trouve ça presque dégoûtant, des femmes sans main, des corps violacés. Alors aujourd'hui, ça nous paraît un peu délirant, mais pour l'époque, c'est la voie du bon sens.
Évidemment, nous, on met ça dans la perspective parce qu'effectivement, à l'époque, on avait une réticence face à cette nouveauté. Est-ce que c'est pas la même chose avec ce qu'on vit aujourd'hui avec l'IA? Est-ce que c'est pas la même chose? Enfin voilà, chaque nouveauté est frais et chaque nouveauté est peut-être un peu dégoûtante parce qu'on ne connaît pas.
Il y a beaucoup de textes, Christelle Reboul, sur Paul Durand-Ruel. Beaucoup moins sur sa femme, on sait finalement assez peu de choses d'elle. Elle a été complètement réinventée par l'auteur, François Barluet. Est-ce que ça laisse le champ libre?
Oui, parce qu'on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une femme. C'est une révolutionnaire à sa façon, Jeanne Durand-Ruel. Une révolutionnaire, je pense, dans son couple, dans son intimité. Parce que aimer comme elle aime, je pense qu'il faut beaucoup d'audace et beaucoup de personnalité, d'indépendance, de liberté. On est sur la vibration. Et en plus, on est sur une pièce de peinture. Et la peinture, c'est aussi une vibration. En plus, les impressionnistes cherchaient cette vibration, cherchaient le reflet. C'était le reflet qui les intéressait. C'était pas la chose en elle-même, c'était l'effet, le reflet. Voilà. Donc, on n'est que là-dedans. Et alors, comment arriver à tout ça? C'est par le costume, c'est par les indications du metteur en scène, c'est par une introspection personnelle, essayer d'aller chercher ce que nous, on n'arrive pas encore à développer pour que ça soit aussi une quête, que ça se devienne donc essentiel dans notre démarche humaine profonde et celle de tout à chacun. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup de choses.
Et surtout beaucoup de légèreté, non?
Et c'était ça. Et c'était ça, moi, ce qui m'intéresse d'aller chercher, c'est cette légèreté. Et donc, aller la chercher devient passionnant.
Christelle Reboul, merci beaucoup.
Merci à vous.
Christelle Reboul à l'affiche de la pièce en ce moment, Les Collectionnistes. Elle répondait à Elisabeth Le Quéré. La suite sur RFI, c'est un nouveau journal. Toute l'actualité internationale dans 3 minutes maintenant. Et puis dans un peu plus d'une demi-heure, l'actualité du continent africain. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner.
À la une d'Afrique Midi aujourd'hui.
Près de 3000 morts à Goma suite aux affrontements lors de l'entrée dans la ville du M23 et de soldats rwandais. C'est le dernier bilan provisoire transmis hier soir par les Nations Unies. 2000 victimes ont déjà été enterrées, 900 corps se trouvent toujours dans les morgues, sans compter des cadavres en décomposition qui n'ont pas encore été évacués dans certains quartiers, des civils pour la plupart.
À tout à l'heure Nicolas sur Midi et demi temps universel. De la musique pour nous accompagner jusqu'au prochain journal avec un titre pour vous à découvrir en ce moment dans la playlist RFI. C'est Delgrès.
Is
RFI Midi.